société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour une autre spéciale du samedi de Société au menu. Aujourd'hui, nous discutons bien sûr de l'actualité de cette semaine politique avec Steve Fortin, chroniqueur au Journal de Montréal. Nous allons également explorer quelques pistes de réflexion sur les conséquences économiques de cette crise du coronavirus et des mesures d'aide mises en place par les gouvernements, notamment bien sûr celui de Justin Trudeau, assez généreux depuis maintenant plus de deux mois, en aide de toutes sortes aux travailleurs et aux entreprises. Et puis ensuite, nous allons revenir sur le 40e anniversaire du référendum de 1980 avec le correspondant du Devoir à Paris, Christian Rioux, qui a écrit une intéressante chronique cette semaine à ce sujet. Nous allons également réfléchir aux conséquences du référendum de 80 avec Frédéric Lapointe, ex-candidat du Parti québécois, notamment en 2018. Alors, bonjour Steve Fortin.
Salut Nick, comment ça va?
Oui, bien, merci. Vous êtes déconfiné, vous, tranquillement, pas vite?
Ben oui, on se promène dans la région. Écoute, on peut pas se plaindre. J'avoue qu'il fait, il fait beau, mais on voit bien aussi que cette belle température-là, ben, ça a attiré les gens ici, mais on s'en attendait, puis... Contrairement à la dernière fois où on s'est parlé, je pense que les commerçants, tout le monde, là maintenant, c'était beaucoup plus clair pour tout le monde. Mais il y a du monde, il y a des gens, on voit là que on est tranquillement, là, on a glissé vers la saison estivale ici.
Est-ce que, t'es pas certain de dire les bonnes informations au début là, dans mon introduction. Est-ce que les commerces là, dont parlait Mme Guilbeault, le coiffeur, l'esthéticienne, ces endroits-là, est-ce que c'est ouvert désormais en région ou ça s'en vient là?
Ben, c'est pas encore, à ma connaissance, non, c'est pas encore ouvert. Je pense que c'est la semaine prochaine.
C'est pour la semaine prochaine, c'est ça. OK.
C'est pour la semaine prochaine, c'est pour lundi. Et puis, mais tu sais, on voit là que je vais donner un exemple. On voit que les règles de distanciation sociale sont suivies. Et je suis passé tantôt devant un quincaillier de notre coin à Saint-André-Avelin. Puis je peux te dire une chose, la longue file d'attente dehors, les gens, tu sais, on voit. Puis c'est quand même toujours au ralenti. Et y a les gens qui viennent, il y a tout ça, mais les mesures font en sorte qu'on fait pas le commerce de la même façon. Et on va à la pépinière, c'est la même chose. Ça change, hein, quand même. On voit qu'il y a une différente manière là, de faire les choses, de faire les affaires.
Nous ne sommes pas en 2019, autrement dit.
Pas du tout.
Ceux qui disaient que nous serions dans un nouveau monde, pour le moment, ça se vérifie. Là. Alors, la semaine politique, Steve Fortin, qu'est-ce que vous retenez de cette semaine? Alors, j'ai vu des gens dire, il y a quelques jours à peine, François Legault disait que la situation à Montréal, notamment, était grave, n'était pas sous contrôle, qu'on ne pouvait absolument pas déconfiner. Et à peine quatre jours plus tard, les bonnes nouvelles. Finalement, oui, ça va suffisamment bien pour qu'on entrevoie certaines étapes subséquentes au déconfinement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous, de la gestion de crise à ce moment-ci du gouvernement Legault?
Ben, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu toutes sortes de signaux qui ont été envoyés. Puis des fois, c'est difficile de décoder là, de décoder les intentions, puis de vraiment là, percevoir où s'en va ce gouvernement-là. Il y a effectivement là des fois un petit peu de difficulté dans le message. Puis c'est une chose de dire bon ben on voit que les signaux sont là, que les indicateurs nous permettent d'envisager le déconfinement. Mais la réalité c'est que une fois la conférence de presse terminée à 13h, on voit bien que il y a des nouvelles qui viennent parfois là un petit peu là tempérer ce qu'on dit. C'est pas normal qu'à ce point-ci de la pandémie. La presse nous révèle ce matin ce qu'on savait déjà. Les gens continuent, les employés continuent d'aller d'un CHSLD à l'autre. Puis moi, je peux te dire une chose, on a appris ce matin par le journal Le Droit, un journal local, celui du groupe, l'anciennement du groupe Capital Média, mais qui est notre journal ici dans l'Outaouais. On apprenait qu'à Gatineau, par exemple, ben, on cache encore le CISO, le Centre intégré de services sociaux, là, et on cache l'information par rapport à une éclosion qui se produit dans un CHSLD de Gatineau. Et on devrait être au-delà de ça. À ce moment-ci de la pandémie, on ne devrait plus être en train de voir des choses comme ça, de s'apercevoir que, encore une fois, on n'a pas compris. C'est la base que les employés ne voyagent pas d'un CHSLD à l'autre. On n'en dira jamais ça si on ne commence pas par cette mesure-là. C'est la plus importante de toutes. puis on n'y arrive pas.
Alors, mais on n'y arrive pas parce que le paquebot, parce que la chaîne de commandement, en quelque sorte, est rompue quelque part, n'est-ce pas? Non, comment se fait-il qu'on en arrive là? Est-ce que c'est parce que des gens n'obéissent pas ou parce qu'ils n'ont pas les moyens d'obéir pour toutes sortes de raisons?
On a entendu, en tout cas, une information très importante cette semaine. Le recours toujours grandissant aux agences. Donc, dans le domaine des préposés aux bénéficiaires, il y a encore trop de résidences qui sont forcées de faire affaire avec des agences pour trouver des préposés aux bénéficiaires. Et quand on a recours à des agences, ces employés-là, de facto, c'est précisément le but, en fait, de les faire voyager d'un endroit à un autre. Donc, le gouvernement va insister fort pour dire on a besoin d'avoir des gens qui vont être à temps plein. Quand il disait temps plein, en fait, c'était pour s'assurer que ces gens-là soient assignés à une résidence et qu'ils ne travaillent qu'à cette résidence-là.
Oui, alors pour que nos auditeurs comprennent bien, on parle ici de ces agences de placement dans toutes sortes de domaines, fournissent de la main-d'œuvre, des travailleurs qui sont assez mobiles, qui font des séquences, des contrats de quelques semaines à un endroit ou à un autre. Oui. Ils sont payés par l'agence en question qui, elle, vend leurs services et ses services à l'employeur. Donc, les établissements du système de santé, comme les CHSLD, ont eux aussi recours à des agences comme celle-là, et c'est ce qui fait que les gens se promènent encore là, d'un centre à l'autre. C'est ce que vous nous dites.
Oui, et non seulement ça, il faut dire que ces agences-là, il y en a beaucoup là-dedans, pas toutes. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, mais il y en a là-dedans, c'est des prédateurs économiques, là. Les anges gardiens dont on parle, moi, j'aime pas quand on va chercher une classe de préposés ou certains préposés aux bénéficiaires par rapport à d'autres. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on dise, par contre. Dans le monde de ces agences-là, il y a des populations fragilisées qui sont visées. Donc, oui, effectivement, il y a des migrants qui n'ont pas nécessairement, qui n'ont pas leur citoyenneté, qui ont traversé par le chemin Roxham, qui se retrouvent aux mains de ces agences-là, qui vont travailler au salaire minimum alors que l'agence va charger 27, 28, 30 $ de l'heure. Mais il n'en restera qu'une petite partie. Il y a une forme d'exploitation là-dedans de gens qui sont dans des situations fragilisées, des femmes aussi beaucoup. Donc ça, là, il y a quelque chose là-dedans aussi. Il va falloir qu'on apprenne de ça. Puis ces agences-là, on le savait, il y en a pour les infirmières aussi. Il va falloir à un moment donné qu'on se penche là-dessus puis qu'on se dise est-ce que c'est vraiment le modèle qu'on veut pour les gens qui vont s'occuper des personnes âgées dans les CHSLD. En tout cas, moi, j'ai des gros doutes par rapport à ça. Et il y en a là-dedans, c'est carrément des prédateurs économiques, puis ils font de l'argent sur le dos des plus démunis puis des plus mal pris de la société. Moi, il y a quelque chose là-dedans là, que j'ai beaucoup de difficulté à accepter.
Un autre élément qu'on a retenu cette semaine, en fait, qui est lancinant tout au long de cette crise, c'est l'insatisfaction de M. Legault à l'endroit des syndicats. On l'a entendu notamment se dire déçu des manifestations des infirmières devant les bureaux gouvernementaux récemment et revenir encore sur cette négociation difficile pour justement permettre aux préposés, aux bénéficiaires d'être mieux payés. Alors on comprend là que les syndicats se font tirer l'oreille dans la mesure où ils voudraient que ces augmentations de salaire-là aient une espèce d'effet domino dans d'autres secteurs. Du domaine de la santé, toujours, là, bien sûr, en ce qui nous concerne. Mais donc, et par conséquent, il est difficile pour le moment d'aboutir. Qui a raison là-dedans? Est-ce que les syndicats sont trop corporatistes à ce moment-ci ou est-ce que M. Legault fait du millage politique sur le dos des syndicats? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, en fait, je pense qu'il y a une part partagée là-dedans. Le mot-clé, c'est souplesse. Puis en ce moment, il me semble que c'est le pire moment qu'on pourrait choisir pour lancer des négociations. On sait exactement ce que le gouvernement veut faire. Il veut cibler certains types d'emplois, puis hausser les rémunérations. On sait que les syndicats, ce qu'ils aimeraient, c'est qu'il y a un effet domino, justement, que ça percole pour d'autres emplois. Mais il me semble que c'est pas le temps. Ce qu'il fallait faire tout de suite et de façon urgente, de manière urgente, c'était de s'occuper du dossier des préposés aux bénéficiaires. Moi, j'ai pas de problème à ce que, en ce moment, par exemple, si on fonctionne par décret, parce que je pense que c'est comme ça que ça a fonctionné, mais qu'on décide de privilégier ça parce que c'est vraiment une situation d'urgence. Donc, moi, j'avais pas de problème avec ça, mais j'ai beaucoup de difficultés. Si le gouvernement pense qu'il peut se servir de la pandémie pour essayer de régler un dossier, puis ensuite, je ne sais pas, c'est comme le pire moment en ce moment de mener ces négociations-là. Il me semble qu'il devrait y avoir une trêve, tout le monde serait capable de reconnaître que dans le cas des préposés aux bénéficiaires, par urgence sanitaire, là, littéralement, il fallait agir. Puis pour le reste, là, on met ça sur la glace, puis on commence ça quand ça sera terminé, quand on sera au moins au-delà de la situation actuelle. Sinon, là, on se tire dans le pied. C'est le pire moment pour le faire.
En terminant, Steve Fortin, un élément qui a retenu votre attention cette semaine, c'est cette sortie de Catherine Dorion de Québec solidaire, parce que la politique, oui, ça continue. Les débats, le débat d'idées, le clivage, oui, gauche-droite, même souverainiste, fédéraliste, ou en tout cas, non, plus, disons plutôt nationaliste contre inclusif, peut-être. Oui. Ceux qui se disent inclusifs contre ceux qui se disent nationalistes, si on va le dire comme ça. Donc, je pense que c'était dans la foulée du 40e anniversaire du référendum de 1980, dont on parlera un peu plus tard dans l'émission. Catherine Dorion partage ce discours de Pierre Bourgault, pendant lequel elle affirme que le Parti québécois de l'époque était pro-travailleur et inclusif. On comprend que ça veut dire qu'il ne le serait plus aujourd'hui. Ça vous a fait réagir, ça?
Oui, ça m'a fait réagir parce qu'il y a là-dedans comme une espèce de révisionnisme. Récemment, j'ai eu le loisir par... par le truchement de quelques amis qui ont été fort gentils et qui m'ont envoyé des discours que René Lévesque pouvait faire, par exemple, à la fin des années 60, au début des années 70, puis même pendant la campagne électorale de 76, 74, 76 et même 80. Je m'excuse, là, mais les discours de René Lévesque étaient à forte tendance identitaire, puis ça ferait friser le poil des gens de la plupart des inclusifs que je connais. Il faut faire bien attention. Et j'aime pas quand on plaque nos débats d'aujourd'hui sur des réalités d'antan. Moi, j'ai eu la chance, moi, dans ma vie de côtoyer quelques personnes que, tu sais, dans le monde politique, en 1994, quand j'avais été candidat pour un ancêtre de la mouvance de gauche, un ancêtre de ces partis de gauche-là. À l'époque, c'était NPD Québec. Le président du parti, c'était un certain Paul Rose. Moi, j'ai pas connu le Paul Rose des événements d'octobre, mais j'ai connu le Paul Rose, par exemple, de son retour en politique et quand il avait été candidat. Puis j'ai eu la chance de me lier d'amitié avec lui. Je serais pas capable de dire comment, puis pour avoir discuté des heures et beaucoup, beaucoup de politique avec cet homme-là, je serais incapable de dire de où il se situerait dans nos débats d'aujourd'hui. Je pourrais pas, parce que c'est difficile de voir, c'est plus la même chose. On n'est plus devant les paramètres à partir desquels on juge des partis politiques, on juge des politiciens d'aujourd'hui. On peut pas arriver puis dire, un politicien d'antan aurait pensé ça. Il aurait pensé quoi, Gérald Godin? Il aurait pensé quoi, René Lévesque, de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne sait pas ça. Fait que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais il y a une chose, par exemple, les candidats du Parti québécois, j'en connais plein, moi, qui sont à gauche. Je peux te dire, dans mon comté, c'est un certain Yves des Trois Maisons, c'est un syndicaliste du domaine de la santé qui, à un moment donné, pendant la réforme Barrette, a décidé d'être un premièrement un lanceur d'alerte, puis ensuite, à un moment donné, il a dit, c'est terminé. Il restait une couple d'années à faire avant de prendre sa retraite. Non, il est sorti. Il n'en pouvait plus de ce qu'il voyait. C'est quelqu'un qui a dénoncé, c'est un franc indépendantiste de gauche. Puis quand Catherine Dorion, elle décide de faire son show parce que j'imagine qu'elle manque d'attention, en faisant ça, là, elle crache au visage de gens qui sont de vrais militants pour l'indépendance, qui sont à gauche, qui sont indépendantistes, qui ont décidé, par exemple, sur la question de la laïcité, de choisir le Parti québécois plutôt que de s'en aller avec Québec solidaire. On peut s'y respecter un peu, puis respecter l'héritage de ce parti-là. Il me semble que c'est la moindre des choses.
Steve Fortin, chroniqueur au Journal de Montréal, résident de l'Outaouais. Toujours un plaisir de discuter avec vous. Allez vous déconfiner, merci, puis on vous parle la semaine prochaine. Au plaisir. Merci.
Certainement, salut.
Dans un instant, chers auditeurs, nous parlons économie, défis économiques à venir avec l'économiste, justement, Yannick Marcille. À tout de suite. Alors oui, depuis le début de cette crise, mi-mars, fin mars, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau multiplie les annonces concernant de l'aide apportée par le gouvernement aux entreprises, aux travailleurs, aux gens qui sont touchés d'une façon ou d'une autre par cette crise, touchés économiquement, évidemment. Alors, 95 milliards par-ci, 10 milliards par-là, on perd un peu le fil et on est aussi un peu ébahi, stupéfait de voir cette avalanche, ce torrent d'argent. Évidemment, c'est le profane qui parle. J'anime une émission de radio. Je ne suis pas économiste, mais j'ai probablement, comme plusieurs d'entre vous qui nous écoutez, l'impression que il y a une limite à l'argent dont dispose le trésor public. On a souvent l'impression, alors quand il y a un petit coup de vent qui vient des États-Unis, on se sent fragile, par exemple. Quand les gouvernements dépensent un peu trop, on nous annonce qu'on court à la catastrophe. Et là, soudainement, les chèques de 2000 $ sont dans la poste, les entreprises sont aidées, des prêts de 40 000 $ dont 10 000 $ est un don au bout de la ligne si on rembourse le prêt à temps. Toutes sortes de mesures comme celles-là qui, manifestement, doivent coûter cher. Parlons-en avec... ce que je veux demander, en fait, à notre invité, c'est est-ce qu'on s'en va vers la... est-ce que tout ça est réaliste, réel, possible? Est-ce qu'on est dans un rêve? Est-ce qu'on va faire faillite? Est-ce qu'une récession économique pas possible nous attend ou à tout le moins un déficit monstrueux au terme de cette crise ou en tout cas de l'œil de la tempête? Discutons-en donc avec Yannick Marcil. Il est économiste, il est homme de gauche aussi. Je pense qu'on peut le dire comme ça. On va lui demander, est-ce qu'on peut être économiste de gauche? Est-ce que... Yannick Marcil, bonjour d'abord. Et puis, où est-ce que vous faites la jonction ou la disjonction entre ces deux chapeaux, si j'ose dire?
En deux mots, c'est deux univers différents. C'est-à-dire qu'il y a une discipline qui étudie de façon la plus, mon Dieu, rigoureuse possible, là, avec plein de nuances. Et puis, il y a le citoyen qui est engagé, bien évidemment.
Alors, évidemment, c'est ça. Donc, vous pouvez, d'une part, d'une main, faire une analyse objective des mouvements de l'économie et de l'autre, proposer des solutions qui, alors là, seraient celles de l'homme de gauche, par exemple.
C'est comme un biologiste, hein? Tu peux étudier la nature puis être écolo ou ne pas l'être.
Ah, oui, c'est vrai. En effet, vous avez raison. Bon exemple. Alors, dites-moi, Yannick Marcil, qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Est-ce qu'on a tout cet argent? Ça vient d'où, cet argent-là? Et est-ce que c'est vraiment beaucoup d'argent, toute cette aide que propose le gouvernement fédéral à l'heure actuelle? Puis ça marche, hein? Alors là, les Canadiens et les Québécois massivement se prévalent de ces mesures-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'entrée de jeu, c'est pharaonique. Là, c'est vraiment des montants hallucinants qu'on n'a pas vus probablement depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais probablement même depuis le New Deal durant les années 30. Là, je veux dire, c'est hallucinant. On s'approche là, présentement dans les montants accordés de la totalité du budget fédéral. C'est capoté, là. C'est vraiment immense.
Comme si on faisait deux années dans une, là. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
C'est vraiment incroyable. Maintenant, où est-ce qu'on va avec ça? Là, c'est un peu complexe parce que il y a d'une part, je pense, une justification normative, là. C'est-à-dire, là, il faut vraiment pas que l'économie s'effondre. Fait que là, on va mettre à fond la planche l'aide aux entreprises, aux individus, aux organismes communautaires, name it, là, tout ce qui a été annoncé depuis deux mois. Donc, il y a une justification qui est tout à fait logique dans le sens où si on fait rien, là, tout va s'effondrer parce que les entreprises se sont arrêtées. Et donc, il y a risque de catastrophe. Maintenant, la vraie question, pardon, c'est comment on va financer ça? C'est ça votre vraie question, Nick, n'est-ce pas?
Bien, sans doute, à moins qu'il me manque des bouts et qu'on ait déjà tout cet argent-là dans nos poches.
Bien, il y a deux réponses à ça qui sont assez amusantes, en fait. Pas amusantes, c'est pas le bon terme, mais bref.
Allez, amusons-nous. Allez, amusez-nous.
C'est qu'effectivement, dans votre petit topo d'introduction, vous avez dit on s'énerve en général, année après année, pour un déficit de 5, 10, 15 milliards de dollars. Puis là, on sort 250 milliards, 300 milliards. Et c'est quoi cette histoire-là? C'est que pourquoi aujourd'hui ce serait correct? Puis les chambres de commerce disent bon, il n'y a pas de problème, c'est ça qu'il nous faut, puis machin, alors que ce sont les premières organisations à être sur le front
Ben oui, à déchirer leur chemise pour un petit programme ici et là, un peu trop généreux.
Bon. Alors là, il y a là tout l'aspect politique qui est vraiment super intéressant, puis qu'on va étudier sans doute dans des thèses de doctorat pendant des années. C'est-à-dire, OK, en situation de crise, comme c'est le cas dans une guerre, comme c'était le cas dans la dépression des années 1930, les règles changent. Hein? La perception de l'avenir change complètement, puis là, il faut faire de quoi absolument pour sauver les meubles. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comment ça va se financer? Bien, ça va se financer parce que il y a une notion super simple qui est que l'État est éternel, ou presque. C'est-à-dire que vous et moi, Nick, nous allons vieillir à un moment donné, ben, moi plus que vous. Puis à un moment donné,
ah
ben,
bon?
On n'aura plus de...
Vous me souhaitez pas du mal, j'espère bien.
Non.
J'espère.
À un moment donné, oui. Dans le cycle de la vie d'une personne, et ça peut être même vrai d'une entreprise, mais c'est surtout vrai d'une personne, on vieillit.
Je pense qu'on a le même âge, Yannick Mercier, je vous dis ça comme ça.
Ah oui?
En passant, oui. J'ai vu votre date de naissance sur Facebook. Allez, continuons.
Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'à un certain moment donné, ben, notre fin de vie approche, notre fin de vie utile, là, physiquement, intellectuellement, et ainsi de suite, approche, puis là, on a besoin de nos épargnes pour nous faire vivre, payer notre loyer, notre épicerie, et tout ça. L'État, c'est pas le cas, parce qu'il y a de nouvelles générations qui vont continuer à nourrir l'État par ses impôts et ses taxes. Donc, la logique est là. C'est que, oui, là, on vient de s'endetter d'une façon phénoménale, mais à un moment donné, on va le payer sur 30, 40 ans, ben, moi, je serai, puis toi, puis moi, on sera plus vivant.
Mais alors, c'est ça. Payer. L'État est un emprunteur beaucoup plus de puissance et de capacité à emprunter que vous et moi, autrement dit. Alors, on répartit ça sur le très, très long terme. C'est ce que vous êtes en train de me dire.
On parle ici d'une vision. Là, quand les financiers, là, les banquiers, là, quand ils acceptent de prêter à l'État, là, ils voient sur 100 ou 120 ans.
Mais maintenant, Yannick Marcel, est-ce que l'état des lieux actuels, la nature et l'ampleur des mesures mises en place par les gouvernements découlent dans une certaine mesure de la situation économique préexistante à la crise? Est-ce que parce que l'économie allait plutôt bien, on est davantage capable et brave pour prendre des décisions comme celle-là? Est-ce que si cette crise est arrivée en pleine dépression économique, on aurait posé les mêmes gestes?
Ah non, mais c'est tellement clair, là, parce que on est, surtout au Canada d'ailleurs, hein, par rapport à d'autres pays industrialisés comme le Japon, même nos voisins des États-Unis, on est dans probablement le pays le plus privilégié, c'est-à-dire que, un, le taux d'endettement de nos gouvernements était relativement contrôlé, le taux d'intérêt est presque nul. Donc, nos finances publiques étant en santé et le taux d'intérêt étant faible, on est en mesure de gérer la crise. Là. Je veux dire,
Alors, on a les moyens. On a les moyens d'être un peu plus généreux envers nous-mêmes qu'on le serait si on était moins bien nantis. D'accord.
Absolument. Il faut pas dire là qu'on peut faire n'importe tout et n'importe quoi, mais ces mesures massives sont possibles grâce au contexte actuel qui est vraiment exceptionnel là, à tout point de vue dans les indicateurs économiques. Et ça se place vraiment très, très, très bien dans l'histoire récente.
Est-ce que la nature du défi qui est devant nous est un facteur aussi? C'est-à-dire qu'on n'est pas devant une crise économique parce que l'économie s'est effondrée d'elle-même. On est dans une pause forcée pour des raisons sanitaires, alors que l'économie tournait à plein régime et qu'on était en pénurie de main-d'œuvre apparemment. Enfin, bon, on connaît le portrait, là. Est-ce que ça compte, ça aussi? Est-ce que c'est la nature de cette crise nous permet d'être plus optimistes quant à une reprise et un rétablissement économique rapide?
Je dirais deux choses. C'est-à-dire, oui, vous avez raison, on avait des assises solides donc qui devraient revenir. D'autre part, je pense que quand même, il y a des secteurs d'économie qui vont vraiment partir de façon très difficile. Tu sais, je pense à la restauration, à l'hôtellerie, au tourisme. Il y a plusieurs secteurs là, qui s'en remettront pas. Ben, en fait, pas le secteur complet, là, mais des entreprises dans ces secteurs-là. Là, tu sais, il y a des restaurants qui tombent comme des mouches présentement. Là.
Alors là, dire que ça sera plus jamais pareil, oui, dans ce domaine-là, on y pense bien. On pense aussi aux gens de la culture là, qui réagissaient
oui,
hier au propos de la ministre Roy. Tout le monde va être un cinéparc désormais. Il y en a juste cinq au Québec. Oui, alors on imagine que les salles de théâtre, les salles, les endroits où on fait des rassemblements, oui, ça sera pas facile dans ce domaine-là pour beaucoup, plusieurs mois ou années à venir. Dites-moi, Yannick Marcille, cette crise est aussi l'occasion, et c'est pareil en économie, pour plusieurs de mettre de l'avant, de s'engouffrer dans la brèche et de dire, bon, ben là, c'est le moment, comme par exemple en environnement. On prend en exemple ce qu'on a accompli malgré nous depuis 2 mois. Voyez la baisse des indicateurs de pollution. Vous voyez comme c'est formidable. Si on continuait, est-ce que la crise économique qui découle de cette crise sanitaire et les aides qui en découlent, elles, peuvent être pérennes? Est-ce qu'on est en train d'après vous, de s'avancer sur le chemin du revenu minimum garanti, par exemple?
Je vous l'ai déjà dit, Yannick, jamais demandé de prévoir l'avenir en économiste.
Voulez-vous répondre quand même?
Oui, un peu. Okay. Mais c'est peut-être plus le citoyen que l'économiste qui répond, en fait. Mais honnêtement, je suis assez pessimiste parce que qu'est-ce qui va se passer quand le monde va commencer à redémarrer, ce qui est déjà le cas, là, c'est qu'on va se gâcher chez Costco, chez Walmart, chez IGA ou je sais pas où, là. Ça fait 2 mois que la majorité d'entre nous sommes dans un monde un peu bizarre. Et puis là, on va juste vouloir retrouver la vie normale. Alors, mon intuition me dit que, OK, oui, on avait rêvé un monde meilleur, un monde différent, ainsi de suite, mais on va juste vouloir aller acheter nos pizzas surgelées parce qu'on en a plein le cul de s'occuper des enfants, de travailler fort pour survivre dans nos petites maisons. Fait que non, je suis pas super.
Les vieux plis sont difficiles à effacer. Je termine sur une question que j'ai oublié de vous poser au départ, ou en fait, je voulais poser en filigrane, là. En fait, là, la question que se posent plusieurs de nos auditeurs, c'est suite à tout ceci, est-ce qu'on va payer plus de taxes, d'impôts? Est-ce qu'une nouvelle période d'austérité? Parce que là, si certains peuvent vouloir profiter de la crise pour promouvoir le revenu minimum garanti ou que sais-je, d'autres programmes sociaux, d'autres vont vouloir s'en servir pour dire, ben voyez, là, c'est le temps de faire de l'austérité plus que jamais. Qu'est-ce qui va nous arriver là-dessus, Yannick Marcille? Encore, prévoyez encore l'avenir, s'il vous plaît.
C'est un risque très grave à mon sens parce que effectivement à la prochaine élection ou peut-être la suivante, on verra bien là, on va dire ben là on a un déficit astronomique donc il faut couper dans les services. On le voit déjà au gouvernement du Québec où on par le biais des syndicats, on sent que les pressions sont très fortes pour réduire les conditions de travail. C'est clairement un risque, là, parce que là, on finance ça sur la planche à billets, puis à un moment donné, ben, il va falloir se relever. Et puis, ben oui, on va dire, ben là, on a aidé l'État, on a aidé l'économie, l'État a aidé l'économie, puis là, ben, il va falloir serrer la ceinture. Fait que oui, non, c'est un risque immense, là, effectivement. Puis moi, je ne vois pas l'avenir de façon très rose.
Bon, alors voilà, on a fait sortir l'homme de gauche finalement. Ça n'a pas été très difficile. Merci. Merci beaucoup, Yannick Marcille. Retournez-vous quand vous déconfinez tranquillement dans le bois. Et puis,
oui, absolument. Il fait un soleil magnifique.
Profitez-en. À une prochaine.
À la prochaine. Merci beaucoup.
Dans un instant, chers auditeurs, nous discutons. Alors là, on change d'époque ou pas. Nos invités nous le diront. Nous parlons du référendum de 1980. Ça fait 40 ans cette semaine, le 20 mai. Donc, nous en discutons dans un instant avec le correspondant du Devoir à Paris, Christian Rioux. À tout de suite. Alors oui, nous avons la particularité au Québec, alors vraiment toute particulière, de faire des référendums sur l'indépendance qui se soldent par des échecs, ni plus ni moins, et puis de continuer notre vie collective un peu comme si de rien n'était. Nous fréquentons les festivals d'humour, nous allons, comme dans le film de Denis Arcand, le confort et l'indifférence au salon du Winnebago. Bref, le confort matériel aide, semble-t-il, à relativiser ou à oublier les échecs politiques. Et cette espèce de dichotomie, ce décalage entre les affres de notre destin politique et notre vie quotidienne, on le sent bien, là, quand on s'extrait du quotidien et qu'on lit la chronique de Christian Rioux dans Le Devoir qui s'appelle « En étranger dans leur pays », ce très joli texte qui réfère au référendum de 1980. Alors, on en discute avec le principal intéressé, il est correspondant du Devoir à Paris. Bonjour, Christian Rioux.
Bonjour.
Alors, vous parlez de ce, évidemment, du référendum de 80 comme d'un du dénouement avorté de la Révolution tranquille. C'est un moment à partir duquel, dites-vous, le Québec est entré dans un déclin politique tragique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que tout le monde n'a pas l'air de penser comme vous. Le Québec continue son petit bonhomme de chemin. On parle pas beaucoup de ça, hein, les échecs référendaires dans la politique.
Non, les Québécois ont un grand don. Effectivement, vous parliez du rire tout à l'heure. Hein, un lecteur me faisait remarquer il n'y a pas longtemps que les lundis des AA, c'est apparu en 1981 et que le festival Juste pour rire est apparu en 82.
Ben,
donc, c'est peut-être pas pour rien. C'est-à-dire que peut-être qu'après 1980, on a eu besoin de décompenser et de rire. Parce que effectivement, 1980, c'est très important de resituer 1980 dans son contexte. C'est-à-dire le premier référendum le premier référendum québécois, c'est vraiment l'aboutissement de la Révolution tranquille. Vous savez, tous les pays, la plupart des pays, la France aussi bien que les États-Unis, ont eu une grande période d'effervescence dans les années 60. On a réformé l'État très souvent. On a réorganisé un grand nombre de choses. La jeunesse est arrivée aussi au pouvoir, en quelque sorte, dans le domaine culturel. Mais la caractéristique de la Révolution tranquille au Québec, c'était ça plus le maître chez nous. Et c'est pas un hasard si René Lévesque, qui a été la figure de proue de la Révolution tranquille, du maître chez nous et de la nationalisation d'électricité, se retrouve au cœur du référendum de 1980. Donc, 80, c'est l'aboutissement de la Révolution tranquille. C'est là qu'elle doit se terminer. Et elle doit se terminer par quoi? Par, évidemment, une prise de pouvoir des Québécois sur leur pays, sur le contrôle politique de leur destin. Et, évidemment, là, c'est un échec dramatique qui va marteler toute la vie politique pendant 15 ans jusqu'en 95 et même après.
À un second échec, là, comme vous le dites dans votre texte. On va y revenir dans un instant. Dites-moi juste, certains ont dit, prétendent, laissent entendre que peut-être que la séquence des événements, là, à partir du moment où le Parti québécois prend le pouvoir, est un facteur ici. C'est-à-dire, j'entends par là que l'avènement de la loi 101 aurait-il finalement constitué l'aboutissement de la Révolution tranquille à la place d'un projet plus abouti d'indépendance? Est-ce que cette loi a desservi, au fond, la démarche des souverainistes?
Qu'une partie de la population ait cru que parce qu'on passait la loi 101, on était maître chez nous, justement. C'est-à-dire, on pouvait
Québec fort dans le Canada uni, là.
Mm-hmm. Oui, on pouvait faire ça, mais la suite va prouver le contraire. Avec la réforme de 1982, l'arrivée de la Charte des droits, la création presque d'un nouveau pays, hein, pour moi, 82, c'est ce que j'appelle un coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire qu'on va au-delà de ce que permet normalement le système politique, hein. Les traditions politiques normalement auraient voulu qu'on réforme la Constitution avec le Québec, qui soit plutôt d'accord et que bon, on reparte une nouvelle confédération. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est qu'il y a 9 provinces anglophones qui décident de changer le pays avec Ottawa et ils changent de pays. Voilà. Et ils créent un grand pays multiculturel. Et pour revenir à la loi 101, la suite va montrer que cette loi 101 va être coupée en morceaux, elle va être limitée, elle va
charcutée.
Il y a, Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le nombre d'amendements à la loi 101. C'est inimaginable le nombre de... Le livre lui-même fait 300 pages, je crois.
Oui, c'est simplement pour l'encyclopédie nommer... des amendements
voilà,
à la loi 101.
Voilà, mais ça, c'est le... Mm-hmm. C'est-à-dire que, oui, les Québécois ont fait la loi 101, mais s'ils pensent que, parce qu'ils ont fait la loi 101, ils sont maîtres chez eux, ben ils se trompent. C'est-à-dire c'est la Cour suprême canadienne qui décide en dernière instance si on a le droit de faire la loi 101, la moitié de la loi 101 ou le quart de la loi 101. Donc, et ça, tout ce qui va suivre le référendum jusqu'en 95, on va découvrir que dans le fond on a payé le prix en 82 de notre échec et
revenons justement au
1982, c'est un peu comme, vous savez, l'acte d'union après 1837. C'est un peu comme la proclamation royale après la conquête. C'est-à-dire, on a perdu, ben il faut payer le prix.
Ensuite, on passe à la caisse. Oui, c'est ça. Une fois que le premier coup est asséné, on assène le coup de grâce d'une certaine façon, on cristallise un gain, si on veut. Revenons au référendum de 80 lui-même, puisque c'est le point de départ de notre entretien. Vous évoquez les reproches qu'on a fait à l'époque et par la suite aussi au gouvernement de René Lévesque en ce qui a trait à la question référendaire, bon, qui était assez alambiquée, c'est le terme que vous employez dans le texte. Je ne la lirai pas pour nos auditeurs parce que c'est long, mais il s'agissait d'accorder au gouvernement du Québec un mandat de négocier avec Ottawa sur la base du principe de l'égalité des peuples. Alors évidemment, Ottawa disait, ben nous, négocier, on n'en a rien à faire. Et puis, par ailleurs, c'était pas du tout clair que c'était l'indépendance qui était à la clé, sauf que, comme vous le dites, si bien, le débat de fond, lui, s'est fait sur l'indépendance. Dans les chaumières, on se demandait si on voulait ou non être un pays, hein, essentiellement. C'était
absolument
ça. Et là, vous dites, vous parlez de broutille en disant, bon, ben, ce débat sémantique disparaîtra peut-être dans le temps. Mais en même temps, Christian Rioux, est-ce que cette question timorée, difficile, tortueuse, torturée presque, n'indique-t-elle pas quelque chose tout de même? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que ça ne, c'est pas le nom de quelque chose, ça?
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'on a tellement hésité sur la question, qu'on a trituré cette question-là de toutes les façons possibles et imaginables pour essayer d'éviter de dire ce qu'on voulait dans le fond dire, oui, ça manifeste évidemment, les hésitations du peuple québécois et de ses représentants. C'est-à-dire qu'il y avait déjà là, dans la question, un échec. Quelque part.
Mais parce que vous avez un Parizeau qui dit on peut poser la question directement, fera traiter de pur et dur
mais, mais voilà, c'est ça. Mais Jacques Parizeau n'hésite pas. C'est un winner. Lui, il veut faire l'indépendance et il veut poser une question claire. Le simple fait d'hésiter dans la question, évidemment, ça manifeste déjà que quelque part, notre échec, on le traîne un peu avec nous. Ce que je veux dire quand je dis que le débat sur la question est un peu byzantin, c'est que je pense quand même que la population a voté sur le fond. C'est-à-dire que peu importait dans le fond les virgules dans cette question-là, je pense que la population, elle a voté sur la question de l'indépendance. Est-ce qu'on veut être indépendant ou pas indépendant? On parlait quand même d'égalité des peuples dans la question. Donc, je pense que toutes les stratégies, vous savez, de Claude Morin, notamment dans ce domaine-là, plus on s'éloigne de l'événement, plus ça devient des détails, dans le fond, de l'histoire. Et la population, elle, a voté, je pense, sur le fond. Et c'est pour ça que moi, je pense que vous savez, on peut bien poser les questions qu'on veut, mais le peuple, il vote sur ce qu'il veut aussi.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ce comportement-là, c'est vérifié chaque fois que le Parti québécois, en particulier, s'est adonné à des atermoiements autour de la question nationale. Oui, Finalement, les Québécois ne s'y trompent pas et ils se prononcent sur le fond de la question.
Soit ils sont pour, soit ils sont contre, mais ils sont contre, ils savent c'est quoi le fond de l'affaire. Quoi. Ils savent de quoi on parle.
Alors, vous parlez de ce long déclin qui passe aussi par le référendum de 95, un autre échec sans lendemain, celui-là aussi, chez les souverainistes, mais avec le fameux plan B du gouvernement fédéral qui assène à nouveau sa vérité et sa suprématie, si on veut. Où est-ce que ça finit tout ça, Christian Rioux? Arrivons en 2020, nous avons notre premier ministre nationaliste provincial au pouvoir, très, très aimé l'armée des Québécois et de nombreux souverainistes, il faut bien le dire. Est-ce que François Legault fait vivre le rêve qui était à l'origine une blague d'Yvon Deschamps aussi, là, le Québec indépendant dans le Canada uni? Est-ce qu'on sauve les meubles avec ça? Est-ce que...
Je crois que ce que révèle François Legault dans cette histoire-là, François Legault a d'une certaine façon pris acte de l'échec, de cet échec-là. Il nous dit qu'il est plus souverainiste, tout ça, on verra. Mais je pense que ce que révèle François Legault, c'est qu'il reste un peuple, quelque part, un peuple québécois qui, lui, est résilient. Peut-être plus que ses élites, d'ailleurs, et que ceux qui le représentent politiquement. Et je trouve que les événements qu'on a vécu plus récemment montrent que le peuple est toujours là et que le peuple a toujours le goût, rêve toujours d'être indépendant. C'est-à-dire, être indépendant, c'est pas mon émerveil, c'est pas devenir riche, c'est être capable de prendre nos décisions et d'en assumer toutes les conséquences quelque part et de pas se faire dire à chaque fois par une autorité étrangère, par une majorité qui n'est pas nous, ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait penser et comment on devrait le faire. C'est aussi avoir le droit de faire nos propres erreurs nous-mêmes et d'en assumer les conséquences. Vous savez, quand on est mineur, on n'assume jamais les conséquences de ses actes. Finalement, c'est un des grands problèmes. Je me souviens que j'avais fait une entrevue à un moment donné avec un historien indépendantiste écossais qui disait, moi, je veux que l'Écosse soit indépendante parce que je veux qu'on assume enfin nos erreurs. et qu'on arrête de dire c'est toujours la faute de Londres et nous, toujours la faute d'Ottawa. Ah. Et donc, je pense que ce que révèle François Legault, et ça a été pour moi une belle surprise, quelque part. Je ne m'attendais pas à ça parce que les échecs politiques, c'est dur quand même. C'est quand même la redécouverte qu'il y a un peuple résilient au Québec qui idéalement voudrait être libre, être indépendant. Et j'insiste sur le mot libre parce qu'on a tellement trituré l'idée de l'indépendance en disant, regardez, l'indépendance, ça va être payant.
Ou ça va être pour aller à gauche ou à droite ou je ne sais où.
Oui, c'est ça. Peut-être que ça va être payant, peut-être que ça va être contre le capitalisme, peut-être que ça va être pour. Mais l'indépendance, c'est d'abord l'indépendance. Et bon, moi, je suis dans l'information internationale, je me promène beaucoup. Je ne connais pas un peuple au monde qui regrette d'avoir fait l'indépendance. Ça n'existe pas. Nulle part au monde. Allez voir les pays africains les plus pauvres aujourd'hui. D'accord, ils sont pauvres. D'accord, ça va mal. Ils sont souvent plus pauvres qu'ils étaient des fois avant l'indépendance. Mais demandez-leur s'ils regrettent l'indépendance. Il n'y a personne jamais qui regrette
l'indépendance. Ah, bien, il n'y a qu'à voir l'indépendance. Ça n'existe pas. Cette chercheuse, tout récemment, là, qui a découvert une copie, un papier, une version originale de la déclaration d'indépendance d'Haïti qui s'appelle L'indépendance ou la mort. Je pense que c'est quelque chose comme ça.
Oui, deuxième pays indépendant en Amérique.
Ça dit quelque chose. Mais en terminant, Christian Rioux, et je ne veux pas éteindre votre belle verve des derniers instants sur François Legault, là, mais en même temps, ça reste un chef confidentiel d'un peuple confidentiel tout à fait provincial dans la mesure où nous parlons à nous. Personne ne sait vraiment. Le Québec ne s'inscrit pas à travers, par exemple, sa gestion de la crise actuelle dans le monde. Oui. C'est Justin
Québec
Trudeau
est
qui...
Le Québec est très absent du monde, d'ailleurs. Oui. Je suis le premier à le constater. Oui.
Alors, autrement dit, est-ce que François Legault, je repose la question, nous mène ceux qui, comme vous peut-être, ont un espoir souverainiste ou nationaliste dans un cul-de-sac ou c'est une sorte de palier de moments de suspendu? Comment vous voyez ça?
On verra. C'est très difficile de le dire en ce moment. C'est-à-dire, vous savez, quand on connaît des échecs, et c'est des échecs très importants, très graves, ce sont des échecs dramatiques qu'on a connus en 80-82, on a besoin de refaire ses forces. C'est évident. C'est ce qu'on a fait après 1837, c'est ce qu'on a fait après la conquête, de toutes sortes de façons. Et peut-être qu'on est, dans le fond, dans cette période-là. C'est-à-dire que le peuple a été heurté, frappé, a souffert de ça dans son fort intérieur, et il a besoin de retrouver des forces. Alors, tant que le gouvernement de François Legault est ça, nous permet de faire ça, et nous permet aussi de nous tâter un peu, de nous dire, regardez, on se compte, on est encore là, on existe encore, on a encore une culture, on a encore une identité, on a encore une économie des
entrepreneurs. Alors, le nationalisme provincial comme pas de recul.
C'est ça. tant que c'est ça, je pense que ça reste positif. Si ça devient le petit confort provincial dans lequel on ronronne tranquillement pendant qu'on laisse les choses sérieuses à Ottawa, là non.
Il me semble que
ça deviendra négatif. Et évidemment, c'est ça qui menace François Legault.
Il me semble que ça ressemble à ça pas mal.
Je vous répète, en tout cas, les débuts du gouvernement François Legault, ça a quand même été un moment où les Québécois se sont dit « Ah tiens, on est encore là. On est encore capable d'être différent du reste du Canada. »
Ah oui, la manifestation de quelque chose.
Loi,
là.
La loi sur la laïcité. On existe. Parce qu'il faut, on passe notre temps à nous dire que le peuple québécois n'existe pas. Il y a des moments où il faut se tâter, se compter et se dire oui, on existe. Et tant que ça sera ça, je pense que ça sera positif. Si ça semble dans l'espèce de confort, le ronronnement fédéraliste, là évidemment ça posera problème.
Le salon du Winnebago, oui. Alors Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne soirée là-bas.
C'est moi qui vous remercie. Merci.
À une
Merci
prochaine.
Beaucoup, au revoir.
Dans un instant, nous discutons toujours du référendum de 80 avec Frédéric Lapointe, ex-candidat du Parti québécois. Alors, je précise aussi qu'on a voulu discuter avec d'autres souverainistes, les gens de Québec solidaire en l'occurrence, mais personne n'a retourné n'a répondu à notre invitation. Nous aurions aimé savoir comment ils voient, eux, le Québec souverainiste après 40 ans après 1980. Mais en tous les cas, nous avons toujours notre fidèle collaborateur, fondateur de la Ligue d'Action Civique, qui a aussi été candidat du Parti québécois dans Crémazie, ou est-ce que ça s'appelait Maurice Richard aux dernières élections? Je ne m'en souviens plus. Il s'appelle, lui, Frédéric Lapointe. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Bonjour.
C'était Maurice Richard, hein, c'est ça?
Exact.
Voilà.
Oui.
Bon, mais vous n'avez pas compté 50 buts pour celle-là, ce sera peut-être la prochaine. Vous avez un autre point de vue sur 80, vous, peut-être? Vous pensez qu'on a gagné quelque chose à travers ça?
Oui, on se souvient qu'à la suite de 1980, un très grand nombre de souverainistes sont entrés en déprime, d'autres sont entrés en critique de l'ensemble de la stratégie. On a entendu pendant des décennies des gens se plaindre du virage référendaire, du rôle de Claude Morin dans l'établissement de la stratégie. Au fond...
Alors, préalablement, là, avant d'en arriver là, c'est-à-dire qu'on avait décidé de séparer l'exercice du pouvoir de la réalisation de l'objectif d'indépendance au moyen de référendum.
Exact. Et donc, à la suite de la défaite, eh bien, la critique a été constante hein, sur cette stratégie, puisqu'elle avait mené à un résultat négatif. Cela étant, avec le recul, si on se déleste de l'amnésie qui est caractéristique de l'analyse des grands événements historiques, au fond, le Québec était où en 1960? Il était où en 1970? Mais le Québec, c'était même pas clair que la population jugeait viable l'option indépendantiste, et c'était pas non plus très clair si le Québec avait le droit à l'autodétermination. Or, le droit à l'autodétermination, ça peut être quelque chose qui se proclame, qui se réclame, mais il n'y a rien, à mon avis, comme le fait de l'exercer. Et la démarche référendaire, le débat référendaire, même si la question était, on s'en souvient, alambiquée, elle ne portait pas clairement sur l'indépendance du Québec. À ce moment-là, elle était beaucoup trop longue. Les plus vieux s'en souviennent.
Disons qu'elle portait sur le statut constitutionnel au minimum, là, disons, hein, sur le rapport entre le Québec et le Canada. On peut dire ça comme ça. Donc, c'était un geste d'autodétermination, dites-vous, le simple fait de s'autoriser à se poser cette question-là.
Exact. Et on l'a refait par la suite. Hein. Il y a eu un référendum en 1992 qui portait sur une nouvelle entente constitutionnelle. Il y a eu le référendum plus proche de nous en 1995, et il y a eu recours à la Cour suprême, on se souvient de la loi sur la clarté, et à la fin de la course, qu'est-ce que dit la Cour suprême lorsqu'elle la question lui est posée? Elle répond, il y a une telle chose qu'une obligation de négocier avec une province constituant le Canada au sujet de sa sécession. Et il y a eu, au fil des référendums, en préparation de 1980, en particulier en préparation de 1995, des tractations internationales visant à préparer l'acceptation d'un Québec souverain à l'intérieur de la communauté des nations. Et tout ça, ce processus-là, c'est absolument pas banal. Pensez à la Catalogne, qui ne peut même pas organiser un référendum sans que la police ou l'armée s'en mêle. Pensez aux Kurdes en Irak qui ont organisé leur référendum, qui l'ont gagné, mais qui, parce qu'ils ne peuvent pas établir une reconnaissance internationale et un contrôle militaire de l'ensemble de leur territoire, n'ont pas pu réaliser leur indépendance. Donc, on est dans le club restreint des nations qui avons le luxe de choisir.
Mais c'est très intéressant. Oui, en l'occurrence, de rester dans ce cas-ci, ça m'amène à une réflexion. J'ai posé la même question à Christian Rioux avant vous, mais dans d'autres termes, est-ce que, au fond, on a assouvi l'appétit pour plus de liberté des Québécois du simple fait de s'accorder ce droit à l'autodétermination sans aller jusqu'à l'indépendance? Autrement dit, les référendums ont servi de soupape. Et ont d'une certaine façon permis au Canada de continuer d'exister tel qu'il était avant. Est-ce que c'est ce qu'on serait dans ce paradoxe-là?
Oui, j'achète ce paradoxe. Les Québécois n'ont jamais été aussi libres que depuis qu'ils tiennent des référendums. Leur rapport de force, d'ailleurs, avec le reste du Canada, n'a jamais été aussi élevé que depuis que l'on tient des référendums.
Faut-il qu'on soit dans l'imminence du dit référendum? Non, parce que là, plusieurs disent qu'au contraire, nous perdons du poids.
Je ne suis pas de cet avis-là. Depuis.
Vous pensez que l'épée de Damoclès continue d'agir, là?
Oui. Oui? Oh, oui, nettement. S'il n'y a pas de pipeline au Québec, en dépit du fait que le fédéral aurait pu passer outre l'opposition de la population québécoise, c'est parce qu'il y a cette épée de Damoclès. En d'autres décennies ou à d'autres époques, on aurait fait assez peu de cas de l'opposition là, d'une frange de la population québécoise. Les gens disent qu'un référendum perdant nuit à notre pouvoir de négociation parce que, au fil des événements, le rapatriement de la Constitution, qui nous a été défavorable, est survenu immédiatement après le référendum de 1980. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Le rapatriement aurait lieu avant, n'eût été de la présence de ce référendum et du risque qu'il soit gagnant et donc que la sécession se fasse. Le référendum a reporté et si on suit des événements, en reportant le projet de rapatriement de la Constitution, on l'a presque tué. Parce que si Joe Clark ne tombe pas en 1979, si Pierre-Éliott Trudeau ne revient pas au pouvoir miraculeusement en 1980, il n'y a pas de rapatriement de la Constitution et là, l'ordre constitutionnel canadien est complètement différent. Et donc, les référendums font partie de notre arsenal. On s'en est bien servi. J'aurais préféré un résultat différent, mais il n'y a, à mon avis, avec le recul, aucune raison de démoniser un référendum, ni même aucune raison de démoniser une défaite.
Mais vous savez, Frédéric Lapointe, que vous tenez un propos singulier parce que même chez les péquistes à qui je parle souvent, on déplore très, très souvent les effets pervers des échecs référendaires. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales qu'on évoque pour être très prudent quant à la tenue d'un autre référendum. On dit s'il fallait en perdre un troisième, ce serait la fin du monde. Parce que c'est très coûteux, parce qu'Ottawa, comme le disait Christian Rioux, assène le coup de grâce tout de suite après la défaite référendaire avec, dans un cas, c'était le rapatriement de la Constitution en 82 contre les intérêts ou les volontés du Québec. Après 95, mais c'est le plan B, la loi sur la clarté, la marginalisation du Québec. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous?
Absolument pas. Il faut se poser la question, non pas de est-ce qu'un référendum perdant entraîne des conséquences, mais se poser la question, un référendum perdant versus aucun référendum. Et s'il n'y avait pas eu de référendum ou de menace référendaire dans les années 70, je le répète, le rapatriement de la Constitution aurait probablement eu lieu plus vite. Et il n'y aurait pas eu, sans menace référendaire, intimidation durable du gouvernement fédéral, instauration de ce que Meach n'a pas pu instaurer constitutionnellement, mais ce qui s'est fait dans les faits, à savoir une multiplication des ententes administratives entre le fédéral et le gouvernement du Québec pour gérer toutes sortes de choses, les infrastructures, le financement des universités, et j'en passe. Au fond, ce qu'on aurait voulu obtenir historiquement à travers de nouvelles ententes constitutionnelles, on l'a obtenu en pratique, de manière administrative et politique.
Alors, vous êtes un vrai...
Nous avons intimidé le gouvernement fédéral à coup de référendum.
Vous êtes un vrai référendiste, Frédéric Lapointe. Vive les référendums, vive 1980-95, et on vous en souhaite un prochain bientôt. À une prochaine. Merci d'avoir été avec nous, Frédéric Lapointe, ex-candidat du Parti québécois, fondateur de la Ligue d'action civique. Avant, c'était Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit à samedi prochain.